Le Grand Dialogue.
Sigikafoba.
Itoudewani wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry. Sigikafoba. Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Grand Dialogue de Studio Tamani est délocalisé ce soir à Tombouctou, la ville des 333 saints, et nous parlons du tourisme, un secteur qui est très touché dans cette ville. Et nous avons comme invité trois personnes. Il s'agit de Moussa Tchekoura Gilbert Koulibaly, directeur régional du tourisme et de l'hôtellerie à Tombouctou, Salem Ould El Hadj, historien, enseignant à la retraite, écrivain, Oumar Diko, guide touristique dans la région de Tombouctou. Je rappelle que c'est la radio Djamana de Tombouctou qui nous accueille. Je suis Mohamedou Touré. Chers auditeurs, téléspectateurs et internautes, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, la première question, nous l'adressons à vous, Monsieur Koulibaly, directeur régional du tourisme et de l'hôtellerie à Tombouctou. Que devient le secteur du tourisme et de l'hôtellerie à Tombouctou?
Bonsoir à tout le monde. Je salue toute la population de Tombouctou. Et je remercie le studio Tamani de nous avoir donné cette opportunité aujourd'hui de parler d'un secteur jadis florissant à Tombouctou, qui faisait beaucoup tourner l'économie. Et nous saluons la présence parmi nous de la matière grise éminente, M. Salem Ould El Hadj, personnalité vraiment incontournable dans la ville pour beaucoup de raisons. Et maintenant, pour revenir à votre question, avant de venir juste aux causes qui ont amené la crise dans le secteur du tourisme à Tombouctou, je crois qu'il faille revenir un peu en arrière pour voir les préludes, ceux qui ont précédé, avant qu'on rentre dans la crise. Et nous, au niveau de l'administration du tourisme, nous pouvons estimer le début de cette crise jusqu'en 2008, consécutif à l'enlèvement de certains Occidentaux, qui a amené un peu à donner une baisse d'arrivée des touristes au Mali. Donc la désaffection de la destination Mali. Et quand des choses comme ça arrivent automatiquement au niveau des consulats occidentaux, ça vient carrément rouge. Et pour vous édifier davantage, aujourd'hui, tout le Sahel est dans le rouge, déconseillé de visiter. Et le Mali ne fait pas exception à la règle. Nous sommes dans la zone rouge, carrément aujourd'hui. Et maintenant, ce couronnement a eu lieu avec l'occupation de la région en 2012. Et aussi avec les événements institutionnels qu'on a connus au niveau du pouvoir à Bamako. Donc, ça a été la débandade de tous les acteurs. Donc, chacun cherchait à se sauver. Donc, les hôteliers sont partis, les guides sont partis, les restaurateurs sont partis. Les établissements de tourisme ont été occupés par des occupants qui ont connu des dégâts énormes. Donc, voilà un peu la situation de façon brève. Donc, avec cette situation de débandade, des destructions de l'outil économique. Donc, je pense que nous ne pouvons pas échapper à la crise. On est rentré de plein pied dans cette crise à partir de ces événements malheureux. Donc, brièvement, je sais que je peux dire par rapport aux causes de cette crise que nous connaissons dans les tourismes, c'est un peu ça.
D'accord. Salem Ould El Hadj, est-ce que le tourisme est mort à Tombouctou?
Moi, vraiment, je ne peux pas dire mieux que le directeur régional. Peut-être je le ressens plus que lui, en tant que tomboxien. Parce que, il faut vous le dire, ce n'est pas le touriste seulement qui est mort, il a entraîné d'autres activités avec lui. Car, comme on le dit, le tourisme est un métier transversal. Je suis un ancien guide. Le voilà à côté de vous. On travaillait ensemble. Le tourisme ce n'est pas seulement l'étranger curieux qui veut voir du pays, connaître et rentrer en dépensant énormément de l'argent. Le tourisme dans une ville comme Tombouctou, c'est toutes les activités matérielles et immatérielles. Parce que dès la construction de l'hôtel qui reçoit les touristes, on fait appel à des ingénieurs, on fait appel à des maçons, à des manœuvres, à des électriciens, à des plombiers, à des commerçants pour le ciment, pour la quincaillerie. On fait appel à des transporteurs, à l'achat d'un camion à l'usine pour transporter les touristes sur les pistes. On fait appel à beaucoup de matériel comme la chaux, comme le ciment. Il faut payer les matelas, les portes, les fenêtres et que dirais-je encore. L'hôtelier recrute un personnel et beaucoup. Il achète beaucoup de matériel moderne tel que le frigo, tel que le climatiseur, tel que les ordinateurs, etc., etc. Mais dans la ville de Tombouctou, où il y a beaucoup de travail sur le plan artisanal, sur le plan des corporations, nous avons beaucoup qui y vivent, comme les bouchers, les vendeurs de poissons, de poulets, les artisans, comme les bijoutiers, les cordonniers, les forgerons. Vous avez également d'autres comme les guides, comme les chameliers. Vous avez les chauffeurs, les pinassiers. Vous avez également le bateau. Vous avez l'avion. Vous avez beaucoup d'autres choses vraiment que le tourisme entraîne. Ce n'est pas le tourisme seulement qui meurt. Tout ce monde-là meurt aussi à Tombouctou. Et ce tourisme touche même la commune. Parce que le jumelage se fait avec le contact avec ces Européens, avec ces Américains, avec ces étrangers qui viennent. De telle sorte que ça ne va pas. Il y a jumelage, pas entre les communes seulement, entre les écoles, entre les universités, et on crée beaucoup de choses pour Tombouctou, pour le Mali. Mais le tourisme, c'est aussi une chaîne de solidarité entre le pays que le tourisme vide et le pays où il a quitté. En plus de tout ceci, nous avons le folklore qui meurt. Parce que c'est à cause des touristes qu'on veille le folklore de temps en temps pour jouer. Nous avons des artistes comme les solistes qui ne font plus rien. Nous avons les orchestres. Tout ceci anime la ville grâce aux touristes. Mais aujourd'hui, le tourisme n'est pas seulement moi, mais Tombouctou est un corps sans âme.
Wow, un corps sans âme. Alors, Omar Diko, vous étiez guide touristique. Qu'est-ce que cette mort du tourisme vous a coûté à Tombouctou?
Bonjour. Je remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Certes, j'aimerais bien rejoindre les doyens. Donc, M. Koulibaly, c'est ça?
Oui.
Et Salem. Donc, au fait, c'est pour vraiment affirmer ce que M. Salem venait de dire tout à l'heure. Donc, quelque part, Tombouctou est vraiment une ville sans âme, certes, donc, parce que tout, c'était vital. En un mot, c'est ce que je voulais dire, le tourisme. Et c'est capital, tout ça. Donc, on ne peut pas perdre ça. Donc, et quand on perd ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, il faut essayer de s'y remettre. Et parce que ça a beaucoup affecté quand même. Ça, nous a
ça vous a affecté, vous?
Bon, oui, oui, oui.
Vous viviez de ça?
Oui. Je ne connaissais que le tourisme. Donc, vous voyez, quand tu fais un travail de plus de 30 ans, et un jour, et que tout est parti comme ça, c'est plus qu'un choc. Donc là, c'est, bon, il faut s'y remettre. C'est la survie, certes. Parce que tel, comme beaucoup d'autres collègues aussi, comme l'a affirmé M. Koulibaly, qui ont exilé, d'autres qui sont dans d'autres corps. Donc, je pense que c'est capital. C'est pour dire tout simplement que nous prions assez que tout revienne en ordre, parce que c'est un beau pays, le Mali, avec des valeurs, tout ça, nos rites, nos cultures et tout ça. Il faut le préserver, il ne faut pas le perdre. C'est très, très important. Et c'est une destination très connue. Donc, je pense qu'au-delà de tout ça, il faut être fort et bâtir et ne pas se laisser ruiner tout ça, perdre de l'inconnu, quoi.
D'accord. Et avant, les touristes qui venaient, est-ce que c'était des étrangers seulement ou il y avait des Maliens également qui venaient découvrir Tombouctou?
Les touristes de toutes destinations. Des Maliens, des Américains, de tout, d'un peu partout. C'était multiculturel. Donc, ils venaient de partout dans le monde. Et Tombouctou était vraiment une destination de référence. Ouais, on recevait. Et moi, si j'ai reçu beaucoup de l'éducation de ce tourisme que je n'ai connu que ça. Et j'ai appris beaucoup et énormément. Et ça m'a suffi aujourd'hui pour vraiment grandir et de faire avec. J'ai appris beaucoup, je suis vraiment reconnaissant. Mais hélas, de nos jours, c'est vraiment... Je suis un peu sous le choc de ce que je vois.
Ouais. Alors, M. Salem Ould El Hadj, il l'a dit tout de suite, Tombouctou était une destination de référence. Qu'est-ce qui a fait de Tombouctou une destination de référence?
Ah, il faut faire appel à l'histoire. Tombouctou, le Malien, peut-être beaucoup ne le savent pas, a été lancé dans le monde grâce à l'empereur Kankamoussa. Quand il a quitté son pèlerinage au XIVe siècle, il est venu avec beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'Arabes, et il a montré la richesse du Mali. Il est parti avec 15 tonnes qu'il a travaillé, distribué gracieusement. Il a construit la fameuse mosquée et un palais depuis. Les Asiatiques, les musulmans, les Sahariens, tous ceux qui sont chassés de l'Empire du Ghana, qui ne voulaient pas de l'animisme, tous ceux-ci sont venus se retrouver à Tombouctou, qui est enfoncé dans le désert, pour être sauvé. En place de Kankamoussa, Tombouctou, très tôt, est devenue une ville musulmane de grande renommée. En 1353, Ibn Battuta, un géographe marocain, est venu à Tombouctou et il a écrit. Et ses livres étaient traduits dans plusieurs langues. On lisait ses livres en Asie, en Europe, un peu partout, de telle sorte que depuis ce XIVe siècle, les gens étaient fascinés. Et d'autres explorateurs arabes sont venus, comme Al-Hassan El-Fezani, connu sous le nom de Léon africain. Mais déjà, les Européens connaissaient Tombouctou à travers les explorateurs arabes. Ensuite, comme ça s'est fait aujourd'hui, Tombouctou vivait du commerce transsaharien. Les chameaux de la Méditerranée, du Sahara, venaient à Tombouctou. Les pirogues de Djenné venaient à Tombouctou. Et Tombouctou a joué un rôle dans le commerce international. On ne peut pas faire du commerce sans échange. Les Tomboktiens écrivaient beaucoup. Ces lettres sont envoyées dans la Méditerranée, un peu partout. Ça a donné une grande renommée à Tombouctou. C'est ainsi que, au 19e siècle, les Européens qui nous refusent aujourd'hui sont venus sur le continent africain, particulièrement en Afrique occidentale, laissant de côté le Sénégal qui était colonisé bien avant. Donc, ils ont envoyé beaucoup d'explorateurs en direction de Tombouctou parce qu'ils connaissaient, ils ont entendu, ils veulent, chaque grande puissance veut posséder Tombouctou. Chaque grande puissance, chaque homme nanti veut voir Tombouctou. Chaque intellectuel veut voir Tombouctou. Et ensuite, Tombouctou a brillé dans le monde grâce à sa brillante université, qui est l'université de Sankore. Et je vous dis, un étudiant qui sortait au 16e siècle de l'université de Sankore peut enseigner n'importe où dans le monde islamique. Alors que les diplômés de ce monde islamique viennent à l'université de Tombouctou, ils voient leur niveau tellement bas qu'ils disent qu'ils ne sont que des étudiants. Mieux, un homme qui est né à Tombouctou, qui a été formé à Tombouctou, qui n'a étudié ni le parti né à Tombouctou, a été pris et exilé au Maroc avec beaucoup d'autres savants. Il s'agit d'Ahmed Baba Soudani. Les Marocains ont affirmé qu'il n'a pas de pareil en Afrique du Nord comme lui au point de vue instruction. Et on l'appelait l'étendard des étendards. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont fait que Tombouctou vraiment est connu dans le monde entier. Beaucoup de choses attirent le monde entier sur Tombouctou. Tombouctou était la seule grande ville islamique qui a accepté toutes les religions. Les Juifs qui ont quitté l'Andalousie, qui sont venus s'installer dans le Sahara, se sont retrouvés à Tombouctou et personne ne les touchait. Et jusqu'au 19e siècle, il y avait une synagogue à Tombouctou qui était dirigée par le rabbin Mardoché et qui est mort au Maroc. Donc, tout par la volonté de Dieu, par des faits que nous-mêmes, peut-être, nous ne pourrons pas expliquer. Tombouctou est devenue la ville la plus rayonnante, la plus renommée du 16e siècle. Et les touristes, qui sont surtout curieux, pour être Tombouctou, il faut visiter cette ville. Ils font tout pour venir à Tombouctou. Et juste au moment où on commençait à découvrir les manuscrits de Tombouctou, pour que Tombouctou soit aussi intéressant aux vieux du monde entier comme les hiéroglyphes de l'Égypte, paf, les djihadistes sont venus. Ils ont une façon de comprendre l'islam. Les Tomboxiens ont leur façon de comprendre. Et tout est tombé dans un puits sans fond.
Alors, monsieur le directeur, aujourd'hui, quand on va revenir à toute cette histoire et quand on va constater les faits, ce qui est l'hôtellerie, ce qui est l'artisanat à Tombouctou, est-ce que ces secteurs sont morts avec la mort du tourisme que vous avez annoncé aussi?
C'est indéniable. Monsieur Salem, il a tout dit. Étant un ancien du domaine, donc c'est pas un novice là-dedans. Et comme il a si bien dit, le tourisme c'est une activité transversale. Ça c'est connu. dès que les touristes descendent seulement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en branle. Du transporteur au vendeur de carburant, au boulanger, la femme qui vend au marché, l'hôtelier, les guides, l'artisanat. Donc, c'est un secteur transversal. Donc, tu vois tout de suite que la ville ou l'endroit commence tout de suite à être irrigué en monnaie. La monnaie circule. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de touristes. Il est là, il est guide. Les guides travaillent avec qui? Il n'y a pas de touristes. Les bibliothèques des manuscrits sont là, bien aménagées, avec des manuscrits là-dedans. Le circuit de l'encre est mort. Il n'y a pas de visiteurs. L'artisan qui est dans la maison des artisans, si vous voyez même ces bâtiments aujourd'hui, c'est déplorable. Il s'asseye. Souvent, moi j'ai connu un aujourd'hui qui m'a dit, il y a à peu près quelques jours, il dit, directeur, vraiment, tes touristes-là, il faut leur dire de venir. Il dit, moi, à la veille de chaque maouloud, vos trucs-là, les gofa, coiffure traditionnelle avec cuivre ou bien argent qui font ici avec les artisans, 100 000 francs par unité. Il dit, chaque veille de maouloud, il pouvait faire 5, ne serait-ce que 5, qui lui rapportait au moins 500 000. Il dit, aujourd'hui, il ne peut rien faire. Cette année, il a fait les maouloud, aucune dame n'a commandé cet outil artisanal. Et pire, il y a une situation qui est là, aujourd'hui, les Chinois ont commencé à pirater. Les touristes n'est pas là pour pouvoir payer ça. La population n'arrive plus à payer. Et il y a une concurrence déloyale qui tue encore le secteur deux fois. L'artisanat, c'est maintenant les trucs utilitaires seulement qui font, hein, les tasses, les louches, les fourneaux. Sinon, tout ce qui est usagé pour souvenir des touristes, ils ne sont plus dans ça. Les hôtels. Je prends un hôtel par mois, dans la grande saison touristique, il n'a rien, c'est 200 touristes par mois. Ou bien minimum 50. Aujourd'hui, les statistiques...
Sur combien d'hôtels?
Aujourd'hui, j'ai dit, on est à 22 aujourd'hui. Mais avant la crise, on était à 25. Aujourd'hui, les statistiques qui nous arrivent, vous allez faire tout de suite la comparaison et voir l'ampleur du problème. Un hôtel où le taux d'occupation était à 50% dans la grande saison touristique. Le taux d'occupation, c'est quoi? C'est le nombre de chambres louées divisé par le nombre de chambres disponibles dans l'hôtel, multiplié par ça. La grande saison touristique, c'est de novembre à février. Minimum taux d'occupation, ils étaient tous à 70-50%. Toujours, il y avait quelqu'un. Mais aujourd'hui, rentre dans ces hôtels. Dans les mois, à peine, il a 3 clients. Il a à sa charge des employés, salaire, INPS, il paye l'eau, il paye le courant. Que voulez-vous qu'il fasse avec 3 clients? Consommation d'un climatiseur par jour, c'est quoi? Et pire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des hôtels, aujourd'hui, où on a mis le compteur prépayé. C'est notre problème. Et quand on a été saisi de ces problèmes, j'ai dit que ça, c'est une lutte que nous, on a fait, qui a été faite depuis longtemps. On a dit de classer les hôtels dans la rubrique entreprise auprès des EDM. EDM dit non. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont domestiques. Il dit non, ils ne peuvent pas être domestiques, puisqu'ils sont créés chez nous comme des entreprises. Donc si c'est des entreprises, le gap ou bien l'unité que les autres entreprises, ou bien la catégorie dans laquelle les autres entreprises sont logées, mais loger nos hôtels là-bas. EDM n'a jamais voulu nous écouter. Ils disent non, on va les classer toujours dans domestique, là-bas, ce n'est pas bon. Et vous venez mettre prépayé parce que c'est domestique. Ils n'ont pas de ligne budgétaire non plus. Donc ça, c'est un autre problème qui est là. Ça, c'est l'artisanat et l'hôtellerie. Les guides. Il est là. Il a tout dit. Souvent, avec les contingents de l'aménagement qui sont là, si je suis appelé par un contingent, je vois un guide qui est disponible. Je lui donne à ce contingent. Ils font le circuit de la ville en une journée. Au moins, il a quelque chose. Donc, c'est comme si le circuit, aujourd'hui, se limite seulement à la ville. Les gens n'arrivent même plus à sortir, même aux environs à 10 km, 15 km. Donc, ce sont ces petits marchés que les guides ont avec l'aménagement aujourd'hui. Et la majeure partie sont désemparés. Et les hôteliers et les guides, ils ont dévié dans d'autres professions. Je connais un hôtelier aujourd'hui qui est paysan. un qui est carrément dans la location de voitures, des guides qui sont des petits commerçants. Hein? Lui, là, il est taximan aujourd'hui. Il y a un autre qui est dans les taxis aussi. Donc, chacun cherche de survivre en trouvant ce qu'il peut, qui est rentable pour lui, pour pouvoir tenir en attendant. Donc, la situation, vraiment, ce n'est pas du tout facile. C'est carrément un problème. Donc, quand on voit même l'effectif de tous ces acteurs qui étaient sur le terrain, quand je suis arrivé en 2013, je suis revenu en février 2014, sur les 70 guides que nous avons pour Tombouctou, et nationaux et locaux, je n'ai trouvé sur place que 34. Tout le reste était éparpillé au Mali, en Afrique, en Amérique, en Europe. Ils sont partis. Les hôteliers, la même chose.
Émigration.
Émigration forcée. La majeure partie était à Bamako, les hôteliers aussi. Et les restaurateurs. Les manuscrits, on a été obligé de les délocaliser à Bamako pour les préserver avec l'ONG Savama, financé par un projet, le projet Mali 15 de LuxDev. Et j'avais un volet également de ces projets avec les guides. Il y a un guide qui a eu un premier financement de ces projets, de Mali 15 LuxDev. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous ai dit, on est en rouge, tous les consulats nous ont mis en rouge. Ce projet Mali 15, en 2014, ils ont bouclé. On dit qu'il y a l'insécurité au nord, il faut fermer. Les milliards, les restes des fonds qui devaient servir à financer des projets de guides et des manuscrits, ils ont tout arrêté. On a reversé tous ces montants au Luxembourg. Donc, même les partenaires historiques qui étaient là, dans le tourisme, qui travaillent avec les collectivités, Rhône-Alpes en France, Tétractis, ceux-là aussi aujourd'hui ne sont plus là. On dit non, il y a l'insécurité, on ne va pas envoyer nos employés là-bas. À partir des mobiles, c'est interdit même. J'ai causé avec un d'eux avant que je ne sache même que j'allais être invité à Tombouctou. Il dit, mais pourquoi vous ne partez pas à Tombouctou? Il dit, il nous est interdit même de passer Mopti. Comment voulez-vous que cela puisse venir aider le conseil régional de Tombouctou sur un volet du tourisme ou financer? Donc c'est fini. Il n'y a plus de partenaires, donc plus de soutien. Donc on est laissé à notre sort. Et l'État aussi, nous avons quitté un gouffre. Ce n'est pas facile. Les autres secteurs, quand on monte des projets à impact rapide, facilement ça se finance. Mais dès qu'un projet du tourisme arrive au niveau des bailleurs, ah, on va les financer pour qui? Tu veux financer un projet pour un guide dans le tourisme, qui va venir chez le guide? Il va guider qui? L'hôtelier qui loge là-bas. Il n'y a pas de touriste directeur. On ne peut pas vous financer des projets. Ce n'est pas des projets à impact rapide qui peuvent être tout de suite consommés dans la population. On voit la retombe tout de suite dans la population. Et voilà notre problème. Donc, vraiment, c'est Dieu seul maintenant qui peut nous aider. Et le département, aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts pour essayer de voir comment sortir de cette crise. Il fallait organiser une rencontre nationale.
D'accord, les solutions, on va y revenir tout de suite. Alors, Monsieur Omar Diko, quand vous guidiez les touristes, quels sont les principaux sites où vous les ameniez?
Donc, au niveau national, donc là, c'est vraiment ouvert, c'est divers. Donc, mais au niveau régional, local, Tombouctou, il y en a. Tombouctou est environnant, quoi, je dirais. Il y en a pas mal. Moi, j'organisais même des voyages jusqu'à Taoudéni. Une partie à d'autres chameaux et une autre partie, on peut faire 7 ou 10 jours à d'autres chameaux et avec une 4x4 ou deux et des guides organisés quoi, jusqu'aux mines de sel. Ça, c'est jusqu'à 800 km nord. Hein. Donc, il y a d'autres sites, pas mal autour de Tombouctou. Il y a le côté du fleuve aussi, et près des villages encore plus anciens que Tombouctou, comme Tindirma et plein d'autres, où il y a beaucoup de choses encore d'ici. Donc, en fait, dans Tombouctou aussi, vous avez quand même la maison des explorateurs. Il y a la grande mosquée d'abord de Djinga River, la fameuse mosquée, et la maison des explorateurs, René, comme Leng, Caillé, Heinrich Barth, Berkey, et puis Oscar Lentz, il y a la bibliothèque, le centre de recherche et de documentation Ahmed Baba, les manuscrits. Donc, il y a l'ancienne université, comme il l'a si bien nommé, M. Salem, donc, où on enseignait l'astronomie, la mathématique et tout ça. Donc, et rien qu'autour de cette université, à l'époque, il y en avait au moins plus de 100. Salem, hein, vous pouvez me rectifier si c'est plus de 100 écoles coraniques. Donc, les gens étudiaient même dans les familles à l'époque. Donc, il y en avait beaucoup, 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 beaucoup à voir. Donc, il y avait le marché à plein de couleurs. Et il faisait beau vivre quand même à Tombouctou et tout en symbiose. Donc, c'était vraiment. Il y avait beaucoup à faire. Et beaucoup de gens vivaient de ça. Donc, on faisait aussi des randonnées de les tours de chameau dans les villages, dans les campements Touareg. On organisait des danses et tout ça. Donc, l'accueil était vraiment là. Il y avait, tout était là. Donc, ça laissait vraiment rêver. Donc là, franchement, de nos jours, c'est comme un cauchemar hein, de voir tout ça partir comme ça. Donc, en fait, c'est un peu ça.
Et avant, Tombouctou était connu pour sa tradition, sa culture et tout. Et aujourd'hui, est-ce que ça n'a pas tendance un peu à disparaître également quand on rentre dans la ville, on voit des décorations Coca-Cola ou autre chose? Est-ce que on n'est pas en train de, la jeunesse surtout n'est pas en train de se désintéresser de cette culture?
Oui, certes, aujourd'hui c'est les influences quand même. Il y a les réseaux sociaux, la télé, il y a tout ça. Donc, mais quand même, je rappelle tous les Tombouctiens quand même, parce qu'il y en a quand même des structures qui sont là quand même pour cadrer tout ça, comme c'était Lecture Vivante, ou je ne sais pas, Mahaman, qui a un neveu, qui a fait partager quelque chose avec les jeunes. Salem a été toujours présent pour l'éducation et puis vraiment de prendre en valeur ce qu'ils ont, parce qu'ils n'ont que ça pour y être... Donc, c'est très important de ne pas perdre ça de vue parce que c'est ce qui fait notre valeur. Donc, c'est comme ça que nous avons notre respect. Je suis d'accord, on peut assimiler, mais pas jusqu'à se perdre. Donc, je pense que Tombouctou, c'est un appel même que je ferai aux jeunes, tout ça, de se conscientiser, de juste milieu, je dirais.
D'accord. Salem Ould El Hadj, on va revenir encore un peu dans l'histoire, puisque c'est très intéressant et important aussi. On parle de Tombouctou, on entend la ville des 333 saints. On parle de Tombouctou, on entend la ville mystérieuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Personne ne peut parler de Tombouctou entièrement et définitivement. Je vais seulement ébaucher. À Tombouctou, il y a 333 saints qui entourent la ville. Pas les saints qui sont à l'intérieur. Hein. Ceux qui entourent la ville seulement, et l'intérieur, c'est la médina, il y a 333. Et le saint patron de la ville, il est au centre, c'est Sidi Yahia. Mais ce qu'il faut vous dire, les anciennes maisons, les trois anciennes mosquées Sidi Yahia, Sonkouré, Djingere, Ber, les anciennes rues renferment aussi des saints. Par la volonté de Dieu, des saints ont traversé ce Sahara pour venir s'installer et mourir à Tombouctou. Des saints sont venus par pirogue jusqu'à Tombouctou et des saints sont nés là. Mais parmi ces saints, Tombouctou retient trois grands noms. De tous les saints, il y a des milliers qui ont traversé le Sahara pour venir à Tombouctou. Le plus éminent s'appelle Sidi Yahia al-Andalusi at-Tadelsi, qui est venu à Tombouctou en 1440. De tous les saints qui sont venus par le fleuve, le plus éminent, c'est Mohamed Bagayogo, qui a quitté Djenné et qui est mort sous l'occupation marocaine. Immédiatement, les premiers mois de l'occupation marocaine, les premières années de l'occupation marocaine, il est mort en 1593. De tous les saints qui sont nés à Tombouctou, le plus éminent, c'est Sidi Mahmoud. Vous avez vu qui est enterré au nord. Cher Sidi Mahmoud. Donc, on classe tous les saints autour de ces trois. Ceux qui sont venus par le Sahara, ceux qui sont venus par le désert et ceux qui sont nés à Tombouctou. Mais les saints, il y en a beaucoup. Et les Tomboxiens, vraiment, croient à ces saints, même si certains n'y croient pas. C'est rentré dans leur culture, c'est rentré dans leur tradition. Et Tombouctou, ce qui fait sa valeur, ce sont les saints, ce sont les manuscrits, ce sont les grands oulémas.
C'est l'architecture également.
Oui, ça c'est aussi l'architecture traditionnelle. Bon, cette architecture, son origine, c'est Djenné. Les premiers habitants qui ont construit à Tombouctou, c'est la population de Djenné qui est venue par pirogue parce qu'il n'y avait pas Mopti. Hein. C'est Djenné, Tombouctou, Tombouctou, Djenné. Et les premiers habitants à s'installer ici sont les gens de Djenné qui ont construit des maisons. Et les briques de Tombouctou s'appelaient briques de Djenné. Parce que Tombouctou a imité les constructions de Djenné. Mais après 1637, il y a eu l'évolution et les Tomboxiens ont imité les Marocains pour construire des maisons à étage. Donc Tombouctou a eu la chance d'avoir des très grands maçons spécialisés qui sont fiers de leur origine. Certains sont venus de l'Égypte. Imaginez-vous des maçons qui ont quitté l'Égypte par Kankamoussa pour ici. Ils construisent très bien et on a une pierre qu'on appelle la pierre Al-Hor. Ces maçons l'utilisent avec le ciment. C'est formidable. Donc, le plan d'une maison typique de Tombouctou, dès que vous rentrez, vous avez le vestibule. Et immédiatement, c'est l'escalier. Quand l'étranger vient, il ne va jamais à l'intérieur de la maison, mais avec le chef de famille, il peut monter à l'escalier. Et au vestibule, vous avez un pilier qui barre la vue de l'intérieur aux passants pour qu'ils ne regardent pas ce qu'il y a dans la maison. Après le vestibule où le maître cordonnier, l'artisan fait son travail, vous avez un autre vestibule pour les femmes. Après ça seulement, vous avez une petite cour et des chambres tout autour pour les hommes, les jeunes, pour les filles. La chambre sacrée du mari, vous avez la chambre de la femme. Ensuite, par derrière, à l'extrême, par derrière, vous avez la basse-cour. Ensuite, vous avez l'étage qui est réservé exclusivement pendant le jour au mari et à ses visiteurs. Mais la nuit, l'étage revient au mari et à sa femme. À peu près, voilà un peu l'architecture. Donc, l'architecture de Tombouctou est héritée de Djenné et du Maroc.
D'accord. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui s'intéresse à cette culture, cette richesse de Tombouctou qui invite les touristes?
À la jeunesse, quand même, depuis un certain temps, il y a un jeune qu'il faut vraiment louer, Monsieur Sangaré, qui a créé une association Lecture Vivante. Et il est parvenir à regrouper les jeunes, à regrouper même les intellectuels, des professeurs, pour s'intéresser à la culture de Tombouctou, pour s'intéresser aux livres, pour s'intéresser aux coutures, pour s'intéresser aux traditions. Et vraiment, il a de l'avenir, mais il n'a absolument rien. Il faut vraiment qu'on l'aide, et qu'on l'aide beaucoup. Il y a M. Dicko qui a ébauché un peu Lecture Vivante qu'il anime à Djingaribert, et vraiment ça marche.
D'accord. Alors, Monsieur Koulibaly, le tourisme est en train de mourir à Tombouctou. L'insécurité a tué ce secteur. Aujourd'hui, est-ce que, s'il n'y a pas une stabilité, ce secteur peut revivre?
Sans se voiler la face, ça va être très difficile. Aujourd'hui, les socles sur lesquels la reprise du tourisme doit se faire, ça, c'est les socles sécurité. Ça, dans tous les rapports que j'ai faits, le premier problème qui sort, c'est l'insécurité. Première solution, trouver une solution à l'insécurité. Et aujourd'hui, certes, nous avons les forces de défense et de sécurité du Mali, avec d'autres forces internationales, ce qui permet à des rares touristes de venir à Tombouctou aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. Chaque année, jusqu'à l'année dernière, au minimum, j'ai 5 ou 10 ou une dizaine de touristes qui viennent à Tombouctou. Mais ils viennent comment? Ça, je ne le sais pas. Le matin, je les vois au bureau, ah, directeur, je suis venu, voilà, je vais les cacher du bureau sur mon passeport. Il dit, mais tu es venu comment? Non. Il est avec son guide ou il est avec son agence de voyage. Et à longueur de journée, il ne se passe pas un mois qu'on m'appelle directeur, tout le monde a hâte de venir voir Tombouctou aujourd'hui après la reconstruction. C'est devenu quelque chose d'une hantise chez certains aujourd'hui. S'il ne vient pas, il va mourir. On m'appelle directeur, je veux venir à Tombouctou, je suis à tel endroit, qu'est-ce que vous me conseillez? Je dis, moi, je ne conseille rien. Le directeur ne dit pas à quelqu'un de venir. Si tu sais que tu peux venir, il faut venir. Mais dire que vous dites de venir, s'il y a problème, je serai le premier interpellé. Il y a un jour, on m'a appelé pour 40 personnes, tous des Américains. On veut prendre un convoi même à partir de Montpellier. J'ai dit, allez-y voir la gendarmerie. S'ils sont d'accord de vous escorter, vous venez à Tombouctou. Comme M. Salem a dit, c'est la hantise. Ils viennent quand même, compte goutte. Parce que pour eux, ce n'est pas possible qu'ils ne puissent venir à Tombouctou. Donc, l'aspect sécuritaire, c'est le socle. Sans ça, on ne peut pas parler du tourisme. Parce que le tourisme a horreur de trois choses. L'insécurité. Le tourisme, il fuit tout de suite. Instabilité institutionnelle, coup d'État dans un pays, il dégage tout de suite. Parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir demain. Catastrophe naturelle. Tremblement de terre, volcan, ça, il dégage. Voilà les trois choses qu'il n'aime pas du tout. Or, notre problème ici, Dieu merci, ce n'est pas les volcans et les tremblements de terre. Ce n'est pas encore un coup d'État que Dieu nous en garde. On ne veut même pas entendre ça. Ça, c'est antidémocratique même. Ce n'est pas bon. Ça tue même encore le tourisme. C'est l'insécurité. Les jours où on mettra en place un système sécuritaire qui puisse faire venir réellement le tourisme, je sais que ça va être, comment dirais-je, une ruée sur Tombouctou.
Oui.
Ça, c'est le premier problème. Et les forces, elles sont là-dessus. J'ai des trucs avec eux. Ça, c'est dans le cadre professionnel. Il y a un deuxième problème, c'est quoi? Ça, c'est le désenclavement. Nous avons un grand problème aujourd'hui. Ce désenclavement a deux composantes. L'enclavement du tout, l'enclavement de la zone. Pour accéder à Tombouctou, ce n'est pas facile. Le chemin, ce n'est pas facile. La route d'ici Ngoumankoura jusqu'à Yunou, ce n'est pas fini. Tombouctou, Bambara Maoudé, Douanza, Mopti, c'est le calvaire. Donc cet aspect enclavement aussi joue sur la fréquentation de la zone. S'il y avait des routes, l'enclavement était carrément effectif, des routes bien praticables. Bon, les petits braquages ou les petites, les petits soucis qu'on a sur la route, ça pouvait être atténué. Mais cet enclavement aussi joue également aujourd'hui en défaveur de la reprise
du tourisme.
Donc ça, alors, c'est les deux problèmes clés pour le moment.
D'accord. Une minute qui nous reste. On va donner 30 secondes à M. Salem et M. Diko. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes envers l'État qui a la responsabilité de trouver une solution à cette insécurité?
Enfin, nous prions. Nous avons comme c'est l'espoir, l'État, parce que la solution ne peut venir que de l'État. Donc, je pense que sur ce point, nous avons de l'espoir quand même, parce que même avec les structures qu'il y a sur place, les forces étrangères, l'armée malienne et autres. Je pense que ça va aller.
D'accord. Ouais. Avez-vous espoir aussi, M. Sal?
Moi, j'ai pensé, mais il faut un circuit, comme le directeur l'a ébauché, un peu sécurisé. C'est-à-dire, un avion de 200 places atterrit à Bamako. Bamako, Tombouctou, en tournant vers Niafunke, mais mettre les touristes dans 6 cars qui sont accompagnés de militaires qui les sécurisent. Bamako, Tombouctou, en 3 jours, ils visitent tout sur la route. Tombouctou, Bamako, en 3 jours, ils visitent tout sur la route. Et il retourne 200 touristes. Et chaque semaine, on fait le même circuit. Si nous voulons inclure le Niger, un avion atterrit au Niger dans le car Gao, Mopti, tourner vers le Burkina, rejoindre Niamey, faire ça chaque semaine. Mais si Gorokar, bien équipé, bien sécurisé, sans cela, on ne peut pas. Mais le seul salut qui reste peut-être, c'est d'imiter le Sénégal, tel le tourisme islamique. Et là, nous avons nos grands saints. Nous avons tout ce qu'il faut. Aucun Africain, aucun pays africain ne peut nous dépasser en ce qui concerne le matériel islamique pour attirer les touristes. L'État n'a qu'à s'y mettre. Les Tombouctiens n'ont qu'à se réveiller.
D'accord. Merci Salem Ould El Hadj, historien, enseignant, écrivain à Tombouctou. Moussa Tchekoura Gilbert Koulibaly, directeur régional du tourisme et de l'hôtellerie à Tombouctou. Oumar Diko, guide touristique également à Tombouctou. Merci à la radio Diamana de Tombouctou qui nous accueille ce soir. À la régie audio Mamadou Ouattara, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara et Moumine Sendebou. Je suis Mohamedou Touré. Merci à toute l'équipe de la Radio Diamana qui nous a accueillis et à toute la population de Tombouctou. Vous nous écoutez depuis la ville des 333 saints. Merci.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.